Vous écoutez
RMC.
RMC, midi 15h.
Les meilleurs moments d'Estelle Midi.
Vous êtes toujours dans le best-of d'Estelle Midi sur RMC. On est ensemble jusqu'à 15h. Et dans cette deuxième heure, on va parler notamment du boom des voitures sans permis chez les jeunes. Est-ce que c'est inquiétant? Faut-il offrir des cadeaux aux élèves qui n'utilisent pas leur smartphone? Et puis enfin, appli de rencontre. L'amour peut-il durer quand il démarre virtuellement? La seconde partie du best-of d'Estelle Midi, c'est maintenant sur RMC.
RMC, Estelle Midi.
Et on va s'intéresser tout de suite au boom du jour dans Estelle Midi. C'est celui des voitures sans permis, accessibles dès l'âge de 14 ans et sans examen du code de la route. Plus 32% d'augmentation en un an. Des voiturettes qui séduisent notamment les plus jeunes, Rémi.
Exactement, et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Jusqu'en 2019, ils s'en vendaient en moyenne 12 000 par an en France. 15 000 se sont écoulés en 2020 et 22 000 en 2022. Ce sont surtout les jeunes qui boostent le secteur dans les zones rurales et périurbaines mal desservies par les transports en commun. Les parents, lassés de servir de chauffeur à leur progéniture, laissent tenter avec le sentiment qu'une voiturette accessible, tu l'as dit, sans permis, dès 14 ans, serait plus sûre qu'un scooter, par exemple. Et évidemment, le prix...
Pour celui qui la conduit, mais pas pour les piétons.
Ah, je parle de la vision du parent pour l'enfant. Évidemment, le prix n'est pas le même. La Citroën Ami électrique, par exemple, pour le modèle de base, est à un peu moins de 6 500 euros, mais il y a des solutions de location à longue durée. À ce prix, en tout cas, les voiturettes peuvent se conduire sans permis dès l'âge de 14 ans, avec une vitesse limitée à 45 km par heure. Elles peuvent rouler partout, sauf évidemment sur les autoroutes, les voies express et le périphérique parisien, aux grandes dames des autres automobilistes qui parfois les suivent. On l'a tous connu sur les départementales ou les nationales.
Voilà, c'est pire qu'un tracteur, une voiturette sans permis. Surtout que maintenant, il y a quand même de plus en plus de rues qui sont à sens unique. Ce n'est pas pratique. Alors, est-ce que c'est inquiétant, ce boom des voitures sans permis? Je commence avec vous, Perico Légas.
C'est même traumatisant. Parce que la voiture sans permis est faite pour des personnes qui n'ayant plus ou pas accès à des véhicules normaux par perte de permis de conduire. Donc des gens qui savent conduire. Malgré tout, même s'ils ont eu un problème.
S'ils savent conduire et qu'on leur enlève leur permis, c'est quand même qu'il y a eu un souci.
Bien sûr, mais enfin, ils ont quand même une expérience de la conduite. Ou des personnes âgées qui préfèrent des petits modèles parce qu'ils ont peur, vous comprendrez. Et jusqu'à présent, les proportions étaient assez acceptables sur le paysage routier français. Là, ce coup de pouce à la jeunesse, cette émancipation, en disant maintenant, le droit de vote à 16 ans, vous voyez ce que je veux dire, c'est la même démarche. Et maintenant, on peut conduire un véhicule à moteur avec un volant et une carrosserie à 14 ans. Je pense que, alors, on est très pessimiste, ça se passe très bien et il n'y a pas d'incident. Ou alors on démultiplie les incidents, les problèmes routiers, les collusions, les collisions, et on verra qu'il y a une... Vous voyez, c'est une démarche, je sais pas si elle est sociologique ou démagogique, mais je vois pas l'intérêt. Il y a des deux roues qui sont très bien pour les enfants. Pourquoi mettre un petit véhicule à leur disposition?
Mais parce que les parents se disent, et si, vous voyez le nombre d'accidents avec des scooters. Donc les parents se disent, le petit, plutôt qu'il me tanne pour avoir un scooter, plutôt qu'il ait un scooter, je préfère qu'il ait une voiturette. D'accord. Lui, il risque moins.
D'accord. Et s'ils sont 4 ou 5 dedans,
parce que il n'y a pas 4 ou 5 personnes dans ces voitures.
Alors,
vous savez ce que font les enfants quand ils ont envie de s'amuser?
Non, faut pas déconner.
On peut être assis sur un scooter dans ces cas-là.
Non, tu as une limite.
Non, mais c'est comme pour ces voitures, il y a un poids limité.
Là, il peut y avoir un usage de ces véhicules.
Sans permis, à moins de 45 km/h, c'est deux maximum. Alors, effectivement, on peut se poser la question du risque, parce qu'effectivement.
Mais 14 ans, vous vous rendez compte?
Non,
mais
14 ans.
La question est.
Attends, surtout 14 ans aujourd'hui.
La question est, est-ce que c'est sans permis qui est dangereux ou 14 ans qui est dangereux?
Parce
que
les deux ensemble.
Le scooter sans permis, c'est aussi le cas. Et là où c'est pas totalement sans permis.
Mais enfin, scooter, vous avez une petite molette, vous voyez, vous avez pas de pédale.
La seule différence, c'est que c'est pareil pour ces voitures-là, c'est sans permis effectivement, mais il faut quand même passer le brevet de sécurité routière.
Oui, que tout le monde
passe en troisième.
Vous connaissez un gamin qui n'a pas eu son BSSR, là, je sais pas quoi.
Alors, c'est BSR, mais aujourd'hui, ça s'appelle l'AM.
Voilà. En tout cas, ils l'ont. Peut-être qu'on pourrait renforcer la vérification, renforcer l'examen pour être sûr qu'ils connaissent bien le code de la route. Mais la question qu'on se pose, c'est est-ce que 14 ans, c'est trop jeune ou sans permis, c'est risqué? Effectivement, à 14 ans, est-ce qu'on connaît le code de la route? Est-ce qu'on connaît la priorité à droite? Est-ce qu'on connaît les panneaux de signalisation? Il y a un risque.
Mais par
contre, la différence entre j'accepte le scooter, mais je refuse la voiture, moi je la vois pas. Moi je préférais qu'on légifère, qu'on renforce l'examen.
Le scooter, c'est quand même plus maniable, plus facile à conduire qu'une voiture, quoi.
Peut-être. Non mais effectivement.
Bah, si.
Là non, peut-être qu'effectivement déjà on est mieux protégé pour le conducteur. contrairement à un scooter.
Mais là, vous mettez toujours du point de vue du conducteur.
Mais il y a du côté des piétons, des gens en face, c'est sûr. Effectivement, ça c'est vrai. Recevoir, je pense que ces voitures-là doivent peser entre 500 kilos et une tonne. Un scooter, c'est 100 kilos, 200 kilos. Arriver à 45 km/h en voiture, c'est plus violent qu'un scooter à 45 km/h. Donc là, c'est vrai. Maintenant, ne les interdisons pas, renforçons tout simplement l'examen.
Voilà, bah on nous demande, c'est bien parce que alors ça fait quand même des mois.
Mais y a pas d'examen.
On nous dit qu'il y a trop de voitures sur les routes.
Mais renforçons l'examen.
Et vous l'écolo là, alors c'est sûr que c'est des voitures
électriques.
Électrique. Et alors
bah, c'est
ça
électrique.
Fait plus de voitures quand même. Donc faut les fabriquer ces voitures que je cherche. Elles ne tombent pas du ciel.
Et posez-vous aussi la question dans les quartiers, dans les villes, dans les villages où les transports en commun sont totalement inexistants. Comment font les jeunes pour circuler?
Alors justement, je vais demander à Emmanuel Dancourt qui a 4 enfants. Emmanuel, seriez-vous prête à offrir une voiture électrique à vos enfants?
Alors moi, oui, mais ils veulent pas, en fait.
Qu'elle veut plus les conduire en voiture.
J'habite à 30 km de Dijon et j'ai des jumeaux qui ont 16 ans, d'accord? Et qui pourraient totalement entrer dans ce genre, à condition d'avoir l'argent, parce qu'il faut même mettre 6, 7, 8 000 francs, euros.
Oui.
Ah, pas du tout.
C'est pas grave.
Lundi matin, par voiture. Donc, en admettant qu'on a les moyens de le faire, moi, ils veulent pas à cause du look de la voiture, pour tout vous dire.
Mais maintenant, ils adorent.
Ah, alors les miens, pas du tout. Mais je trouve ça quand même intéressant comme démarche. Avant, ils pouvaient rouler en mobylette ou en scooter dès 14 ans avec ce même permis. Ces mêmes permis, c'est l'AM. Ils avaient pas fait de code non plus. Ils avaient pas plus de notions de.
Il y avait moins de voitures.
Dans les 8 heures du permis ex-BSR, donc AM, il y a quand même pas mal de choses. On l'a tous passé. On se souvient quand même quand on était sur une piste faite exprès, on s'arrête au stop, il y a des feux rouges, il y a quand même
c'est une initiation.
Oui, mais en attendant, tu l'as jamais fait?
Je l'ai, mais j'ai pas fait les 8 heures.
C'est vous qui avez passé ce
Ah bon? Bah, nous, on l'a
j'ai fait au collège en 3e, ça durait une heure, on l'a tous vu.
D'accord. Mais peu importe, mais cela dit, effectivement, on a tendance à se mettre du point de vue de parents en se disant ils sont protégés, il y a une carrosserie. Évidemment, du point de vue des piétons, c'est moins bien. Donc c'est pour ça que je rejoins Pierre en disant, de toute façon, on n'arrêtera pas Perico, cette progression. On n'arrêtera plus, c'est lancé. Mais par contre, qu'on les oblige à passer le code. Là, pour moi, ça me paraît impératif.
Alors, on a beaucoup d'exemples, là, beaucoup de téléspectateurs et d'auditeurs qui nous appellent et qui sont les heureux propriétaires de ces voitures électriques. Et on a Bertrand, qui nous appelle des Pyrénées-Atlantiques. Bonjour Bertrand.
Oui, bonjour.
Ah, vous n'avez pas 14 ans, hein, Bertrand?
Non, j'ai pas 14 ans. Comment allez-vous?
Bien, et vous, Bertrand?
Impeccable. Alors, sur le sujet de la voiturette, donc, c'est vraiment le nom qu'on utilise, la voiturette. En fait, bien sûr qu'à 14 ans, c'est pas bon. Parce que le gamin qui a 14 ans ne connaît pas le code de la route. Donc, c'est sûr qu'il faut, que l'enfant à 14 ans passe le code de la route. Ça, je suis d'accord. Mais par contre, la voiturette, c'est l'avenir. Pour trois choses. Moi, ça fait depuis un an que je roule en voiture parce que j'ai un petit problème de permis. Bon, ça, c'est autre chose. Mais en fait, on est gagnant sur trois choses. Parce que première chose, moi, quand je fais le plein, je mets 30 euros. Et je roule 400
kilomètres. Ça dépend des modèles. Ça dépend des modèles. Toutes électriques.
Non, mais grosso modo.
Ah, parce qu'il y a de l'essence aussi.
Elle est en diesel, donc c'est pas bien, pas électrique.
Ah, il y a des mini-voiturettes diesel en plus.
Oui, tout à fait.
Oui.
Donc, voilà. Donc j'économise de l'argent sur l'essence. Et surtout, actuellement, l'essence est un peu chère. Deux, je pollue moins automatiquement parce que je roule pas très vite.
Ah bah c'est sûr.
Et la troisième chose, c'est que déjà, je peux pas faire d'excès de vitesse. Donc sur le permis,
maintenant on peut parce qu'il y a plein de villes où c'est 30 km par heure. Donc
oui, bien sûr. Mais bon, en général, il y a pas l'excès de vitesse. C'est quand même moins dangereux.
Ouais.
On peut quand même moins avoir d'accident.
Enfin, on risque de s'endormir quand même, non?
Non, parce qu'en fait, dans une voiturette, c'est comme à l'intérieur, on est vraiment bien installé. Il y a la radio, il y a le chauffage.
Bah justement, on risque de s'endormir, alors.
C'est pas très grave. Mais c'est plus un jouet. Alors qu'il y a 25 ans, je me souviens quand j'étais gamin, quand on croisait ça en vélo, les voitures sans permis, on appelait les
pots de yaourt.
Comment?
Les pots de yaourt.
Exactement. Et à l'époque, c'était vraiment un jouet. C'était vraiment un
truc. C'est surtout un truc de personne âgée.
Donc on est super à l'aise. Et je reviens sur l'âge de 14 ans, on peut pas mettre, c'est une grosse erreur de leur part, mais en fait, ils savent pas, c'est une erreur des lois, en fait. Parce qu'un gamin de 14 ans, ça dépend du gamin, mais en général, il y a encore un enfant à 14 ans. Et il faut qu'il sache absolument le code de la route.
Bah oui, évidemment.
Ça, par contre, c'est obligatoire. Il faut qu'il passe le code de la route si on redonne une voiture sans permis à 14 ans.
Eh ben, merci beaucoup. Merci, Bertrand.
Juste pour finir, je suis persuadé que la voiturette, c'est l'avenir. Parce qu'on est vraiment triple
pas sur autoroute, gagnant. Hein. Oui, non, mais c'est l'avenir en ville. Mais bon, il y a des gens qui ne font pas que de la ville. Mais en tout cas, merci beaucoup.
45 km sur l'autoroute.
Merci Bertrand, au moins tu ne consommeras pas. Vanessa nous appelle d'Aix-les-Bains. Bonjour Vanessa.
Bonjour Estelle, bonjour toute l'équipe. Bonjour.
Et Vanessa, vous aussi, vous avez une voiture électrique.
Elle a pas 14 ans.
Vous êtes sûre de votre permis ?
J'ai toujours pas 14 ans, mais j'ai mon permis. Je l'ai pas du tout acheté pour les mêmes raisons que Bertrand, parce qu'en plus, je me suis absolument pas posé ce genre de questions d'excès de vitesse ou compagnie. Moi, je l'ai acheté avec mon époux parce que ma fille, déjà, avait 15 ans et demi quand on l'a acquise. Mm-hmm. Et en plus, moi, je fais énormément de petits trajets par jour. Aller faire 3 courses, aller emmener les enfants à l'école, aller les rechercher. Et ma fille, moi, mon mari travaille toute la semaine. Mm-hmm. J'ai 2 enfants qui ont des âges différents, 17 ans maintenant et 11 ans.
D'accord.
Ils prennent l'école à la même heure. Et ils ont l'école qui est à 7 km d'écart. Donc, il fallait que j'arrive à gérer et la grande et la petite en fonction du bus, du train, etc. Mm-hmm. Et puis, j'ai dit à mon mari, c'est ridicule d'avoir une grosse voiture dans alors que je fais que des trajets en ville avec Sébin. Je fais que des trajets dans des rues qui sont relativement étroites, encombrées, etc., devant l'école. Et j'avais dit à mon mari, bah, tu sais quoi, on va vendre la grosse voiture. Et je vais utiliser cette voiture uniquement pour ces petits trajets parce que déjà économiquement, c'est plus que valable. Hein. Moi, bien j'ai sûr. Un an de recul. J'ai un peu plus de 5000 km sur cette voiture.
Ah, quand même.
Pas mal.
5000 km, ah ouais.
Ouais, et ça m'a coûté, j'ai calculé ce matin, ça m'a coûté 300 euros d'électricité.
Ah oui, donc c'est rien du tout, effectivement. 300... Non, mais c'est sûr, voilà, c'est imbattable.
Ça prend 2 heures la nuit en heure creuse pour la recharger pour 70 km. Mmh. Ouais. Ma fille a pris 15 heures d'heures de conduite avec cette voiture, avec l'auto-école. On l'a initié au code entre-temps pour lui expliquer tout un tas de choses.
Oui, mais parce que vous l'avez fait, mais c'était pas obligatoire en fait. Vous auriez pu la laisser tranquille avec cette voiture.
Non, c'est pas obligatoire, mais en fait, j'ai anticipé en me disant en fait, si elle s'en sort bien avec cette voiture, sachant que en fait, c'est quand même elle qui est vulnérable sur la route. Donc, on lui a expliqué que c'est toi qui es vulnérable. Donc, tes rétros, tu les utilises, tu anticipes, tu mets tes clignotants. Moi, j'ai réappris à prendre des ronds-points avec ma fille. Hein,
oui. Parce que, ça se prend par la droite, hein. C'est important.
Non, mais voilà, j'ai réappris à reprendre des ronds-points avec ma fille parce que moi, je conduis depuis longtemps.
Oui.
À anticiper parce qu'on a le bord du lac où il y a et les cyclistes et les motos qui, alors les cyclistes qui arrivent sur la piste cyclable à droite et les motos qui arrivent à gauche. Donc, j'ai expliqué à ma fille avant de te mettre sur la droite pour que éventuellement on te double. Bah, tu regardes s'il n'y a pas un cycliste à droite. Donc, tu
anticipes. Vous l'avez formé, quoi.
J'ai formé. Et en résultat des courses, ma fille, je l'inscris au permis cette semaine. Je pense en toute sincérité que dans un mois, ma fille, elle conduit. Ouais. Elle a son permis.
Non, mais ça, c'est pas mal aussi. Mais il faut une formation. C'est pas mal. Et ce que vous nous dites est important, Vanessa. En fait, voilà, vous lui avez donné des heures de conduite et puis vous l'avez formé. Mais c'est pas le cas de tous les parents. Et c'est ça aussi qui nous inquiète sur ce plateau. On est avec Patrick, qui nous appelle du Vaucluse et qui est moniteur d'auto-école. Bonjour, Patrick.
Oui, bonjour. Bonjour.
Alors justement, Patrick, vous êtes moniteur d'auto-école. Vous êtes plutôt favorable à ce genre de véhicule sans examen du code de la route ?
Alors moi, je suis favorable, effectivement, et ça fait partie des nouveaux modes de transport et de déplacement. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas d'examen de code de la route proprement dit, mais les élèves ont quand même obtenu un examen qui s'appelle l'ASSR, ASSR 1, ASSR 2, l'attestation scolaire de sécurité routière, sur lequel ils ont vu les bases de la circulation, les bases de la circulation en vélo, les bases de circulation piéton qui peuvent leur servir pour le vélo, la voiturette ou le scooter. Donc, ils ont une formation au code de la route. Ensuite, ils ont une formation en établissement, donc en auto-école, de 8 heures minimum. 8 heures minimum. Et à la fin des 8 heures, donc c'est ce qui s'appelle le BSR, mais l'enseignant, à la fin des 8 heures, peut estimer que le niveau requis n'est pas atteint et, à partir de là, ne valide pas la formation du BSR. Et ce BSR permet d'obtenir un permis de conduire. Et le permis de conduire impose des responsabilités. Ce permis peut être suspendu, ce permis peut être annulé, ce permis peut être invalidé. Ils ont énormément de responsabilités à 14 ans quand ils obtiennent leur permis de conduire.
On vous a parlé du témoignage de Christophe il y a un instant sur l'application RMC. Et Christophe, il est avec nous également, il nous a appelé au 3216. Il est gendarme. Bonjour Christophe.
Bonjour Estelle, bonjour l'équipe.
Bonjour. Et vous avez déjà plusieurs fois verbalisé des jeunes à bord de voiturettes, hein, je crois, Christophe.
Ouais, moi-même, et puis les collègues avec qui je travaille. Mais nous, on a été sensibilisés à l'origine par les chefs d'établissement scolaire.
C'est-à-dire?
Alors, parce que c'est surtout des collégiens ou des lycéens qui ont ce genre de véhicule. Et ils sont aperçus que sur les parkings, soit des bus, soit les parkings des établissements scolaires, ils faisaient tout et n'importe quoi. Notamment des courses avec 4, 5, 6 à l'intérieur.
Ah,
et après, c'est pratique, c'est percé en dehors du périmètre et des abords des établissements scolaires. Et nous, effectivement, ils ont pas conscience.
Hier,
Monsieur Chaffré, il parlait d'un scooter, mais si le jeune il fait des bêtises, il est à un scooter, il est tout seul. Ils sont quatre ou trois dans ce véhicule et qui font des conneries. Qui se font percuter par un véhicule même plus important, les conséquences corporelles sont plus importantes aussi.
Et c'est des jeunes qui avaient quel âge, Christophe? La plupart de ceux que vous voyez
14 et 15 ans.
Mmh. Oui, c'est ça. C'est trop jeune pour vous, Christophe?
Ils réalisent pas. C'est un jeu. Enfin, on les voit. Enfin, Certains ne réalisent pas un petit peu les responsabilités que cela implique d'aller sur la voie publique avec un tel véhicule en étant plusieurs à bord. Ils en ont pas, je pense que ceux auxquels on a été confrontés, ça faisait plus rigoler qu'autre chose. Quoi.
Bah merci beaucoup Christophe pour ce témoignage. Et c'est vrai que c'est des voitures qui ont un design un peu sympathique, voilà, et ça s'est beaucoup amélioré depuis quelques années. Vous savez, on parlait des fois des bouteilles d'alcool qui étaient plutôt sexy pour les jeunes, etc. Et là, c'est des voitures qui sont sexy pour les jeunes. Donc en fait, ça fait un peu jouet, quoi. Ça fait pas truc sérieux, Pierre Rondeau. Et c'est ça aussi le problème.
Non, mais c'est très facile à conduire. D'autant plus qu'ils n'ont pas besoin de permis pour les conduire. Bah, donc n'importe quel jeune de 14 ans peut aller à la Fnac ou chez Darty et commander une voiture. Ça coûte cher, c'est vrai, mais si les moyens, ils se le payent. Et encore une fois, ça pose aussi la question parce qu'on parle des établissements scolaires et des zones de campagne, des zones rurales qui n'ont pas suffisamment le transport en commun pour pouvoir se déplacer. Ouais. Comment font ces jeunes à 14 ans, 15 ans, 16 ans qui ont besoin de se déplacer à parcourir 10, 15, 20, 30
kilomètres?
Ils ont leurs parents.
Non, mais moi, je suis maman taxi, quoi.
Je peux passer des journées entières.
Parce que t'en as pas un 40 minutes.
Même le jeune de 14 ans n'a pas envie d'aller en soirée avec sa mère qui l'accompagne.
En plus, ils sont sympas, les miens. Tu leur dis, tu veux pas prendre le bus? Mais maman, il n'y a pas de bus, en fait. T'en as deux le matin, un soir, et c'est fini.
À 18h, effectivement.
En tout cas, merci à tous les auditeurs qui nous ont appelés. J'ai l'impression que tout le monde a une voiture sans permis aujourd'hui. C'est assez hallucinant. Rémi, on vous a posé la question, en tout cas sur le compte Twitter d'Estelle Midi, le boom des voitures sans permis. Est-ce que c'est inquiétant, Rémi?
C'est inquiétant, oui. Tout le monde n'a pas forcément une voiture sans permis et ça inquiète quand même 76% de ceux qui ont voté sur les réseaux sociaux.
RMC, les meilleurs moments d'Estelle Midi.
Et on va s'intéresser maintenant à l'idée du jour. C'est celle d'un établissement scolaire de la Vienne qui propose à ses élèves de lâcher leur téléphone portable en échange de cadeaux. L'expérience démarre demain.
Exactement, une vingtaine d'élèves, des volontaires vont participer à cette expérimentation. 10 élèves de seconde, 10 élèves de cinquième. Tous auront avec eux une petite pochette rectangulaire dans laquelle ils poseront leur téléphone quand ils ne l'utiliseront pas. La pochette est connectée, elle a un capteur et via une application, elle va détecter la présence du smartphone. Dès qu'il reposera plus de 15 minutes, le temps sera alors décompté. Plus il est dans la pochette, moins son propriétaire l'utilise, évidemment, et plus ce propriétaire cumule des minutes de déconnexion. Et il y aura des récompenses, évidemment, des viennoiseries, des jeux, des places de cinéma, des tickets pour aller au bowling, des entrées dans un parc d'acrobranche, voire même, s'ils atteignent les objectifs collectifs, une sortie au Futuroscope. L'objectif collectif, c'est de cumuler 6 jours de déconnexion par jour chez les cinquièmes. 6 heures de déconnexion par jour chez les cinquièmes. 4 heures par jour chez les secondes. D'après une étude réalisée en 2021, un enfant de 9 à 10 à 12 ans sur 3 possède un téléphone portable. Chez les 15-24 ans, le temps passé devant un téléphone ne cesse de grimper depuis plusieurs années pour atteindre aujourd'hui en moyenne 4 heures par jour, les yeux rivés sur son téléphone portable pour les 15-24 ans.
Mais ça marche si on déconnecte la nuit?
Oui.
Donc ça fait plus de 6 heures.
Alors, je pense que c'est sur les heures de cours, à mon avis.
Les heures de cours, j'espère qu'ils n'ont pas leur portable, les gosses.
Des fois, ils sont dans la poche.
Ça marche la nuit quand on laisse.
Dans un instant, la personne en charge de ce programme qui nous expliquera dans les détails en quoi ça consiste. Daniel Riolo, est-ce que cette idée, elle est bonne? Voilà, de conditionner en fait l'usage du téléphone à des cadeaux pour pousser les enfants à moins l'utiliser.
Ma première réaction quand j'ai vu ça, ça a été de dire tout est bon tant qu'on peut les éloigner de l'écran. Je sais pas, j'ai le sentiment qu'il y a rien aujourd'hui et qui peut les faire lâcher le téléphone.
Le sport.
Ça c'est vrai. Oui, c'est vrai. Moi j'en ai l'expérience. Mon fils fait beaucoup de sport l'après-midi et que donc c'est les seuls moments ou il le lâche. Sinon, je me retrouve toujours désarmé face à cette réponse. Quand je dis donc, bah, il faut lâcher le portable, c'est pas bien, regarde, bah, j'ai tout essayé, les études scientifiques, ah, regardez, on dit, tu vas devenir fou, machin. Ouais, ouais,
ouais. Et ils te disent, t'as lâché ça d'abord.
Et la réponse, c'est, ok, bah, je vais, et qu'est-ce que je fais après? Et là, je sais pas, parce que toutes les propositions, bah ouais, mais tu penses bien
quand
tu
es en cours, a priori.
Toutes les propositions,
autre chose à faire. Tu prends ton iPad.
Toutes les propositions tombent à l'eau. Bah, t'as qu'à te faire un film, un doc, t'as qu'à prendre un livre. Ouais. Mais tu sais, je regarde des vidéos, c'est comme regarder la télé.
Ah là là, le mien me sert ça aussi.
Mmh. Bah oui.
Moi, il m'a dit à la fin, c'est parce que je regarde des tutos de maths. Parce que t'es bien joué, mais en vrai.
Je connais cette
théorie. Bah, au départ, je trouvais ça super.
Je suis à chaque fois catastrophé et je n'ai pas de solution. Donc, faire un cadeau, je ne sais pas. Alors, il va falloir que je cible vraiment le cadeau, moi. Hein, mais j'ai l'impression d'acheter ça, quoi. Et ce n'est pas bon non plus.
Bah, moi, je n'ai pas envie qu'il mange des pains au chocolat en échange de déconnexion.
Mais le pain au chocolat, c'est un des cadeaux. Mais peut-être que tu trouveras un autre cadeau qui peut le.
C'est que je trouve ça consternant. Il faut toujours une carotte pour faire des trucs.
Une carotte, c'est une viennoiserie.
Non, mais là, en plus, ils vont être obèses mais déconnectés. Ils vont être obèses mais déconnectés.
Mais arrête, c'est juste. Les viennoiseries, c'est un des cadeaux. Ça peut être autre chose. Trouve un autre cadeau.
Si je choisis toujours la viennoiserie.
Eh ben, ça va pas non plus.
D'accord. Donc, je trouve ça consternant qu'il faille toujours avoir une carotte pour
mais
faire quelque
chose. Mais s'il
n'y a pas de
solution, qu'est-ce qu'on fait? On les laisse s'intoxiquer avec leur portable.
La solution, c'est. Alors, je pense que ça vient aussi des parents. Moi, je connais plein de gens autour de moi qui ont des enfants un peu plus jeunes que les miens et qui n'autorisent le téléphone que certaines heures par jour et pas à l'école. Et ça fonctionne pas mal.
Ils ont 10 ans. Bon, bah voilà. Et quand ils en ont 14, c'est plus.
Je croyais que c'était interdit, moi, les smartphones en classe.
En cours, c'est interdit.
En cours, c'est interdit. Bien sûr, on parle de la maison.
Dans la cour de récréation, non, c'est de très compliqué de l'interdire dans la cour de récréation. Mmh. En revanche, en cours, ça doit être absolument. Et quand le portable est saisi dans la cour de récréation, dans le cours, ça doit être effectivement tout de suite enlevé. Moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait des cours pour expliquer les nouveaux médias, leurs pratiques et donc aussi leurs dangers. Il faudrait qu'il y ait une ou deux heures dans l'année. Et c'est pas besoin de faire ça comme une.
À l'école, tu crois que ça va marcher, ça?
Ah, je pense que ça peut faire la sensibilisation, oui.
D'ailleurs, quand vous les voyez, maintenant, ils se retrouvent au café, vous les voyez tous sur leur portable, alors qu'ils sont tous ensemble. Enfin,
on voit des gens de notre âge au restaurant qui sont en couple et qui regardent.
Mais ça, c'est quand ils sont en
couple. Mais ça, c'est pas vrai.
Mais quand on est nombreux, non. Laurent Dandrieux, est-ce que quand même c'est une bonne idée d'aider nos enfants à se déconnecter? Parce que la plupart du temps, enfin c'est ce que disait Daniel, en fait c'est pas de l'horreur, ils sont intoxiqués, ils sont drogués au téléphone portable.
Oui, après je suis pas certain qu'effectivement obtenir quoi que ce soit par ce genre de logique, un peu de marchandage finalement. Si tu fais ce que j'ai envie, tu vas avoir une récompense. Ça me paraît un principe éducatif, surtout mis en place dans le cadre de l'école. Ça me paraît anti-éducatif au possible. En fait.
Alors c'est pas dans le cadre de l'école, parce que là en fait c'est les enfants qui vont devoir en fait apprendre à se déconnecter chez eux. C'est-à-dire que évidemment au collège par exemple le portable est totalement interdit, au lycée c'est déjà un peu plus
pourquoi est-ce que c'est l'école qui gère ça alors, si c'est pour les apprendre?
C'est une initiative menée par l'école pour apprendre aux enfants à se déconnecter.
D'accord. Mais enfin je sais pas, mais je sais pas comment vous faites avec vos enfants, mais si effectivement vous êtes uniquement dans une logique de deal, si t'es sage t'auras un cadeau. Je suis désolé, mais c'est le contraire d'une éducation en fait.
Bah moi j'ai essayé le dialogue.
Quand vous êtes là,
moi j'ai pas d'enfant.
Non mais quand vous êtes là, vous pouvez lâcher le portable. Voilà, oui. Mais quand t'es pas là, comment tu veux faire? Le gamin il a fini ses devoirs, t'es pas là pour vérifier et il prend son téléphone. Là par exemple, le gamin il mettra son téléphone dans une boîte pour avoir un cadeau.
Sauf qu'en fait, éduquer c'est responsabiliser, c'est leur apprendre à se contrôler, à se discipliner.
Et Laurent, mais tu crois qu'on n'essaye pas ça? Tu crois que t'essayes pas par le téléphone?
Je dis pas que c'est facile.
Bah oui, mais justement en plus tu confies que t'en as pas, donc je t'assure que c'est. C'est pas évident, tout ce que tu as dit, je t'assure que c'est essayé. Mais le portable, c'est véritablement un fléau. C'est quelque chose pour les très adultes, dur à maîtriser. Et c'est hallucinant, vraiment.
Souvent, on ne leur donne pas non plus un bon exemple. Et ça, c'est malheureux. On est avec Jérôme Chimizzi, justement. Il est en charge du pilotage du programme d'innovation numérique à l'établissement Isaac.
Lui, il va avoir des solutions.
De Poitiers. Et donc, en fait, c'est lui qui a mis en place ce programme. Merci, Jérôme, d'être avec nous dans Estelle Midi.
Oui, bonjour à tous.
Bonjour.
Alors, on est un peu mitigé. C'est-à-dire qu'il y a du bon, il y a du moins bon. Tout d'abord, expliquez-nous comment vous est venue cette idée en fait de conditionner l'usage du téléphone portable à un cadeau.
C'est venu de toute façon, c'est ce que vous dites tous. Hein. Il y a une problématique qui existe aujourd'hui au sein de l'école, mais aussi dans les foyers. Il y a une utilisation qui est faite des téléphones qui crée régulièrement des conflits. L'objectif, c'était de justement de mettre en place quelque chose pour faire une déconnexion digitale et rentrer dans un système d'une démarche positive et bienveillante. Alors c'est compliqué, mettre des récompenses pour que les jeunes acceptent de poser leur téléphone. Je dirais que ça, c'est un petit plus. Sincèrement, quand on a distribué les pochettes, les enfants étaient un peu réticents en se disant « bon voilà, c'est encore un contrôle parental qu'on nous met en plus, quel est l'intérêt de faire ça ?» Mais quand ils ont vu qu'il y avait un challenge, parce que c'est plus comme ça qu'on a présenté la chose que de dire qu'il y a une récompense, il y a un challenge derrière ça, c'est-à-dire qu'ils vont devoir rentrer dans un système de gaming par rapport à leurs camarades. Donc ça veut dire qu'ils ont un classement, ils savent qui fait des pauses, combien de temps ils font des pauses, et essayer de battre l'autre. Aujourd'hui, c'est leur univers. Les jeux qu'ils font sur Internet, ils sont dans cet état d'esprit-là, c'est leur monde.
Et mais c'est-à-dire que le gagnant va au Futuroscope et le dernier a une viennoiserie, quoi.
Alors non. Le challenge, c'est un challenge collectif. C'est-à-dire que si, ensemble, ils arrivent à atteindre l'objectif de faire une pause de 1400 heures jusqu'au 10 juin, ensemble, ils gagneront tous une place au Futuroscope.
Ah, c'est bien
dans
ça.
Dans ce challenge collectif, on va récompenser aussi les trois premiers. C'est-à-dire que le premier aura le droit de faire un vol en apesanteur, le deuxième aura une place de karting, et le troisième aura une place de laser game pour donner un challenge supplémentaire pour récompenser aussi ceux qui vont faire plus d'heures. Parce qu'il y en a qui vont en faire moins, mais celui qui s'investit le plus, c'est pour avoir une récompense effectivement dans l'investissement qu'il fait. Parce que je rappelle qu'on est dans un cadre de projet. Donc on fait un test par rapport à ça. Donc on est dans ce système là. Après l'idée c'est que de faire en sorte qu'on sorte de cette utilisation qui est souvent source de conflits. C'est pas nos personnels éducatifs ou aux enseignants de passer leur temps à faire ça. Alors certes au collège c'est interdit l'utilisation du téléphone, mais malgré que ça soit interdit, il y en a quand même qui l'utilisent. Donc il y a quand même des choses à faire. Et au lycée, c'est interdit dans les bâtiments et dans les salles de cours. Mais l'élève, en récréation, il va être tellement pris dans son appareil, dans ce qu'il voit, il fait même pas attention qu'il rentre dans le bâtiment, qu'il rentre en salle de cours dedans. Et le plus gros fléau, je trouve, c'est dès qu'il voit une notification ou ils entendent une sonnerie, ils se jettent sur le téléphone. Qu'est-ce qui se passe?
Non, mais c'est pour ça qu'il faut leur enlever leurs notifications. Moi, c'est ce que j'ai fait.
Mais il y a des établissements privés qui bannissent le portable. Tu n'as pas le droit, même dans la cour à la récré. Ouais. Qu'est-ce qui empêche le public de le faire? Il y a une loi contre ça? C'est atteinte aux libertés? Si dans un établissement public, tu as un surveillant qui dit pas de portable et que c'est la règle.
Mais c'est interdit
Je pense que beaucoup de parents seront.
C'est interdit même dans le public.
Pas pendant la pause.
Ah bah si, bien sûr.
À la récré.
Au collège, bien sûr. C'est interdit partout.
Mais du coup, moi, je trouve ça super gênant qu'on donne des récompenses parce que les gens se sont contentés de faire ce qu'on leur demande.
C'est en famille, c'est un challenge. Moi, j'avoue que j'étais un peu réfractaire au début, Jérôme Chimidi, mais moi, je trouve que l'idée du challenge en groupe. Bon, sauf pour ceux qui n'ont pas de portable ou eux, ils n'auront rien du tout. Donc ça, c'est quand même un peu embêtant d'être pénalisé parce que vous n'avez pas de portable. Bon, mais je veux dire pour les autres, vous êtes, il y a quand même un challenge et une émulation. C'est pas juste le gamin et sa récompense. Donc ça, c'est plutôt non. Ça vous a pas convaincu, Thierry?
Alors si, je trouve l'explication donnée, le côté collectif et on essaye d'atteindre un objectif, je trouve ça pas mal. Je reste quand même convaincu qu'il y a une responsabilité des parents pour dire aux enfants, je mets ton portable sous clé ou tu as droit à 2 heures de portable le soir quand tu rentres après avoir fait tes cours, etc., etc. Je pense que c'est bien si c'est conjoint avec l'établissement scolaire, tout ça est bien, mais faut quand même que c'est la responsabilité des parents aussi.
Enfin, moi, j'aurais pris le portable de ma mère et je l'aurais mis dans la boîte. Hein, je vous le dis tout de suite. Hein.
Vous savez, c'est aujourd'hui, effectivement, ça, c'était solution et tous les parents essaient de le faire, mais ça change complètement la posture. C'est-à-dire que c'est plus le parent qui dit tu poses ton téléphone, tu l'utilises pas. Là, c'est l'enfant qui va prendre une habitude.
C'est ça. Vous avez raison.
À un moment donné, de pas le regarder en permanence.
Vous avez raison.
Ils sont aujourd'hui, c'est une génération qui reste en contact en permanence avec ses camarades, mais en même temps, ils ne se voient plus. Ils ne se voient pas, ils discutent qu'à travers leur téléphone. Même ça, en récréation, vrai. Vous regardez les élèves, ils sont en groupe, ils sont tous sur leur téléphone.
Voilà.
À demander s'ils s'envoient pas des messages entre eux pour discuter. Et ils perdent cette interaction sociale. Donc il faut, c'est pas de leur dire n'utilisez plus votre téléphone, c'est quelque chose de mauvais. C'est pas du tout ça. C'est de se dire à un moment donné, c'est pas le téléphone qui doit nous dire ce qu'il faut faire. C'est pas ça. C'est nous, on a envie d'utiliser, on l'utilise, on n'a pas envie d'utiliser, on est capable de se déconnecter.
Martin, ouais. Vous avez des messages.
Ouais, on a beaucoup de messages et elle convainc pas forcément beaucoup de monde, hein, cette initiative sur Direct Studio. On a un auditeur par exemple qui nous demande si on aura un point de plus en maths si on mange bien ses épinards à la cantine. voilà, il y a beaucoup de messages un peu dans.
Il y a quand même beaucoup de parents qui récompensent les bonnes notes ou les bons bulletins. Aussi, hein, faut pas se cacher non plus la vérité.
Juste une petite précision, je suis allé vérifier. Actuellement, les téléphones portables sont bien interdits dans les cours d'école et de collège. Ça peut être également potentiellement interdit dans certains établissements au lycée.
Alors on a également.
Oui. Ça veut dire est-ce qu'on va avoir droit à une récompense si on paye ses impôts, si on fraude pas dans les transports en commun. Enfin, tu vois, l'idée de récompenser quelque chose qui est juste respecter la règle qui a été fixée, je trouve ça aberrant.
Bah oui, mais enfin là, il y a aussi une émulation. Bon, ouais. Alors en tout cas, on va voir ce qu'en pense Cyril, qui nous a appelé de Montauban au 32-16. Bonjour Cyril.
Bonjour l'équipe.
Bonjour.
Cyril, vous avez des enfants ?
Oui, j'en ai 3. J'ai 2 adolescents de 13 et 14 ans et une petite de 8 ans.
Et ils ont tous un téléphone ?
Non, pas la petite de 8 ans, mais les deux adolescents en 4e et en 3e, ils l'ont depuis la 6e, oui.
Et est-ce que vous aimez cette idée dont vient nous parler Jérôme Chimizzi, justement, de donner une petite carotte à des enfants s'ils n'utilisent pas leur téléphone portable ? Est-ce que ce serait une bonne manière de les en priver ?
Non, je suis plutôt opposé à ça. Je trouve que mettre la carotte pour des choses comme ça, je trouve que ça empêche les parents d'éduquer leurs enfants, tout simplement.
Merci Cyril.
Moi, la carotte, je leur mets une carotte, par contre, pour les études. À la fin de l'année scolaire, quand ils ont une très très bonne moyenne, ils ont un objectif, quand ils sont au-dessus de l'objectif, ils ont un petit cadeau. Voilà. Mais ça s'arrête là-dessus. Et ils l'ont eu sans... Au départ, ils n'avaient pas la carotte. C'est parce qu'on a vu que ça se passait très bien à l'école qu'après, on leur a mis la carotte pour que ça maintienne. Enfin, voilà. Mais sur le téléphone, moi, je trouve que c'est de l'éducation.
Mais vous n'avez pas de souci avec le téléphone et vos ados, vous ?
Alors, non, on n'a aucun souci. Ah il faut savoir qu'en France, en dessous de 15 ans, quand on a un téléphone Google, par exemple, il y a une application qui s'appelle Family Leak. Et qui permet de contrôler le téléphone de notre enfant. Moi, le téléphone de mes enfants, à l'instant T, je peux vous dire au collège s'il est éteint ou allumé. Je peux vous dire où ils sont. Je limite à 4 heures le temps de téléphone par jour pour mes enfants.
Ce qui est pas mal déjà.
4 heures, le téléphone se bloque. Oui, mais bon, le week-end, par exemple, sur une journée complète. Oui. Au bout de 4 heures, le téléphone se bloque. ils ont, pareil, le téléphone se bloque. On a réglé de 21h à 7h du matin. Donc à 21h le soir, en semaine, le téléphone y est bloqué automatiquement. Ils peuvent plus s'en servir à part pour passer des appels d'urgence. Et ça, c'est possible. Et nous, c'est ce qu'on fait. Et ils ont pris l'habitude. Et maintenant, c'est une habitude. Enfin voilà, c'est comme ça. Alors après, honnêtement, hein, on a beau les avoir éduqués comme ça, si demain on leur débloquait qu'ils avaient open bar, peut-être qu'ils resteraient sur de l'open bar. Hein, mais
ouais. Alors après, moment, Cyril. Voilà, Le petit bémol, parce que Daniel a des étoiles dans les yeux, ça ne fonctionne pas sur Apple, par exemple. C'est uniquement sur les téléphones Google. Daniel, voilà.
Donc, sûr qu'il n'y a pas d'appli. Il n'y a pas d'appli de contrôle.
L'application est disponible sur l'App Store, en tout cas.
Oui, c'est ça. Ouais. Non, mais c'est une appli qui est.
En tout cas,
l'application est disponible dans l'App Store uniquement pour.
C'est-à-dire que vous fliquez vos gamins.
Ah, mais ça, c'est autre chose.
Ça, c'est pas un problème.
Enfin, les parents sont là pour fliquer leurs enfants. Enfin, les parents sont là pour éduquer leurs enfants.
Alors, la récompense, ça va pas. Fliquer, ça va pas. Privé, ça va pas. Il n'y a rien qui va. Donc, en fait, ils font ce qu'ils veulent.
Éduquer à ce.
Quand tu vois où ils sont et quand tu vois ce qu'ils font avec leur téléphone, si c'est du flicage, est-ce que vous avez aussi leur message, Cyril ?
Non, justement, c'est pas du flicage parce qu'en fait, je vois pas l'activité qu'ils ont sur leur téléphone. Ah. Je vois combien de minutes ils ont utilisé telle application ou telle application. Mmh. Je peux leur autoriser ou leur bloquer certaines applications. Ils sont géolocalisés, je peux savoir à l'instant T où ils sont, mais par contre, je peux pas voir quel message ils envoient à quel copain ou à quelle copine, etc. Ça, c'est pas possible. Je peux même pas voir sur quel site ils vont. Ça,
est-ce qu'ils se plaignent, vos enfants ? Est-ce qu'ils le vivent mal ?
Non, ils le vivent pas mal. Du moins, si c'est le cas, ils nous le disent pas, mais ça se voit pas. Ça, c'est clair. Ils le vivent pas mal. Faut savoir que nos deux grands ont 16 et 17 de moyenne là au collège. Donc, les félicitations pour les deux. Donc, voilà. Moi, je pense que ça, tout va ensemble. Moi, voilà.
D'accord.
Je pense que quand on éduque correctement ses enfants, voilà, faut donner du sens. En fait, faut donner du sens à ses enfants et leur faire comprendre que c'est important. La console, c'est pareil. La console, c'est pareil.
Oui.
Ils ont une Xbox. Elle est bloquée. Et ils ont l'autorisation. Alors, la semaine, il n'y a pas de console. Le mercredi après-midi, il y a une heure. Et le week-end, il y a une heure. Le samedi, une heure le dimanche. Et ils s'arrêtent sur ça. Et puis, c'est comme ça. Et ils s'en fait une raison. Hein. Et ils vivent pas, ils vivent pas mal loin de là.
Eh ben merci beaucoup en tout cas. Bravo. Cyril pour votre témoignage. Voilà, je vois Thierry Moreau et Laurent Bourrieux qui sont admiratifs.
Ah oui,
je viens déjà de télécharger l'application.
Non, mais non, c'est vrai. Ils sont trop grands, ils vont la contourner.
Chez les Riolos ce soir, ça va
rien contourner du tout.
Mais je suis sûr que c'est contournable.
Il faut que moi je la mette et eux aussi alors.
Ouais. La clé c'est la responsabilité des parents, c'est-à-dire que si les parents sont responsables, ils font attention, se prennent au cœur ce que font leurs enfants, ça va tout de suite mieux.
On va remercier Jérôme Chimizzi qui était avec nous pour nous parler de cette initiative. Moi, j'aime bien l'idée quand même du challenge. On va voir ce que ça a donné, en tout cas, sur notre compte Twitter. Et cette question, faut-il offrir des cadeaux aux élèves qui n'utilisent pas leur smartphone ?
Non, à 80% d'après les personnes qui ont voté, il ne faut pas offrir de cadeaux contre un smartphone à l'école. Pour 80% donc des auditeurs qui ont voté sur le compte Twitter, juste l'expérimentation dans cette école de Poitiers, dans cet établissement de Poitiers, ça termine le 10 juin, on verra peut-être le 10 juin.
On rappellera Jérôme Chimizzi pour savoir ce que ça a donné, mais je pense que l'attrait de la récompense va être très fort.
C'est sympa,
vous verrez qu'ils iront tous au Futuroscope.
RMC. Les meilleurs moments d'Estelle Midi.
Selon une étude, 10% des couples qui se marient aujourd'hui en France se sont rencontrés sur Internet. C'est même 40% aux États-Unis. Mais est-ce que les applis de rencontre sont un gage de longévité pour les histoires d'amour ? Eh bien, rien n'est moins sûr, Rémi.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Français sont de plus en plus nombreux à tenter de trouver l'amour via Internet. C'est même devenu le lieu privilégié pour faire ce type de rencontre. Selon une étude IFOP réalisée en 2020, cette année-là, 30% des couples se sont rencontrés via Internet en France, loin devant les fêtes.
Évidemment.
Loin devant les fêtes. J'allais te dire. Les fêtes à 14% et le travail à 9%. Tu as raison. C'était exactement l'inverse il y a 10 ans. Hein. C'était d'abord les fêtes, le lieu de travail et ensuite seulement Internet. Sauf que la tendance, elle était déjà là avant le Covid, Estelle. En 2019, le principal lieu de rencontre amoureuse, c'est vrai, c'était les fêtes, dans un quart des cas pour les couples. Mais Internet arrivait déjà juste derrière à 21%. Donc il y a une vraie tendance. Il y a d'autres chiffres qui remontent un peu, c'est vrai, ils datent de 2013. Mais cette année-là, l'Institut National d'Études Démographiques indiquait, tu l'as dit, que 9% des couples mariés s'étaient connus en France via une application de rencontre. À titre comparatif, c'est 39% aux États-Unis.
C'est énorme.
Quant à savoir si ces couples 2.0 durent, là, les études sont très divergentes. Voilà, tu as cité une étude, c'est vrai, c'est une étude qui a été réalisée par l'Institut Savanta Coombs qui dit que ça dure pas. Voilà, que dans 25% des cas, en fait, les couples qui ne se sont pas rencontrés via Internet durent plus longtemps que... Voilà. Mais moi, j'ai trouvé une autre étude. Ça va peut-être mettre du baume au cœur à certains. C'est une étude réalisée par les universités de Chicago aux États-Unis et d'Essex au Royaume-Uni. C'est une enquête qui date de 2019. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, bien sur Internet, les utilisateurs remplissent, on le sait, un profil. Ils disent plus facilement ce qu'ils sont, ce qu'ils cherchent, quand ils disent la vérité. Hein.
Oui,
quelles sont leurs aspirations dans la vie.
Photo.
Oui, mais après, ça permet en tout cas de faire un tri. Et résultat, d'après cette étude, le risque de rupture d'un couple marié serait inférieur de 25% si les deux amants se sont rencontrés en ligne.
Ah là là.
Alors, je vais commencer avec vous, Emmanuel Doncan, parce que vous avez rencontré votre compagnon sur Internet, justement.
Exactement.
Et ça dure toujours ?
Un bon 4 ans et demi, là.
Alors,
ça me pose question, parce qu'il insiste bien sur le mot marié, Rémi, et nous, on n'est pas mariés, ça ne lui parle pas le mariage. Mais oui, bien sûr, vous savez, c'est quand même dur d'aller sur un site de rencontre, de se dire, allez, qu'est-ce que je fais ? Je me mets sur le marché de l'occasion, alors que nous, on est dans des métiers, on rencontre beaucoup, beaucoup de gens. Et donc, je me suis mise sur le marché de l'occasion sur deux sites. Il y en a un dont je suis sortie au bout de 15 jours.
Et pourquoi ?
Parce que je me suis rendu compte que je l'ai rempli, j'ai tout rempli, les questionnaires, machin. Et l'algorithme, il m'a fait matcher avec quelqu'un que je venais de quitter. Et voilà.
Et donc là, je me suis posé l'un pour l'autre, ça se trouve.
Pas du tout, justement. Donc, j'ai quitté ce site-là et je suis restée sur l'autre où j'ai rencontré mon compagnon. Mais moi, j'ai lutté contre l'algorithme, en fait. Ni lui ni moi, sans se connaître, étions rentrés dans ce système d'algorithme parce que tous les gens qu'on me présentait ne me plaisaient pas du tout. Et donc, au bout d'un moment, j'ai juste marqué. Alors, c'est un peu spécial, pardon, excusez-moi, ça a fait hurler dans les chaumières. En fait, je me disais, mais à quel genre d'homme il peut rester de l'amour ? Ah, tiens, un veuf. Alors, j'ai marqué veuf, Lyon, Dijon, Paris, et je suis tombée sur mon chéri.
Et qui est veuf.
Et qui est veuf avec trois enfants. Ah, et moi, je débarquais divorcée avec quatre enfants et ça lui a pas fait peur.
Ah oui, moi, je vais très vite au médecin. Parce que je trouve qu'en temps de pandémie, c'est quand même bien pratique.
Urgentiste.
Ou architecte. Architecte, c'est quand même vachement ça construit sa maison.
Ça gagne pas très bien un architecte, faut le savoir.
Oui, mais quand même, voilà, il y a des professions qui font envie. Bah, tiens, Robert.
Si on remonte avant 2013.
Oui.
À mon époque, je veux pas jouer les anciens combattants. Il y avait des agences matrimoniales.
C'est vrai.
Ça s'appelait pas site de rencontre.
Ah oui.
C'était agence matrimoniale.
C'est pour les gens plus âgés.
C'était vraiment pour se marier. On peut se poser pourquoi
aujourd'hui.
Vous êtes
sur une appli, Robert ?
Non, pas du tout. Mais pourquoi ? J'ai pas besoin de ça.
Bien sûr.
Pourquoi aujourd'hui?
Je ne sais pas pourquoi j'ai posé cette question.
Non.
C'est sympa pour Emmanuel Dancourt,
mais c'est pas grave.
Non, mais pourquoi aujourd'hui a-t-on besoin de ce type de site ? Je crois qu'il y a une sorte de timidité aujourd'hui. On n'ose plus draguer, entre guillemets, les gens dans la rue, au travail. Il y a tellement d'attaques, si vous voulez.
Personne.
On préfère se mettre dans des sortes de sites où on est protégé. On va pas être attaqué. On va pas nous dire que vous avez harcelé. Et donc, il y a quelque chose qui sécurise. Alors que...
C'est pas vrai. C'est pas vrai.
Choisir surtout.
Non, c'est pas vrai. C'est pas ça. On n'est pas protégé. Tu sais, il y a un nombre de prédateurs sexuels sur ce site. C'est impressionnant.
Oui, mais tous les mecs qui se mettent tout nus.
Mais tu les repères vite.
Oui, on les repère vite.
Il y a des gardes-fous.
C'est sûr qu'un mec qui pose nu,
il y a des gardes-fous de sécurité. Elle est où la spontanéité de rencontrer quelqu'un, d'être attiré? Est-ce que c'est par les sites de rencontre? Je sais pas. Moi, je trouve que on perd un peu de séduction. Il a parlé d'une étude aux États-Unis des sexes. J'avais envie de dire du sexe. Ouais. On se demande si aujourd'hui c'est pas simplement des relations, des plans cul, pardon de parler comme
mais
ça.
Mais pas du tout, Robert.
Je sais pas. Je suis.
Il y en a.
La séduction quand un match, par exemple, vous êtes content, vous dites.
Mais la séduction, vous l'avez dans une fête, vous l'avez dans la rue, vous l'avez dans une émission de télé.
Oui, mais ce que disent.
Mais non.
On l'a au téléphone, on l'a en écrivant.
Que disent des gens?
Pas tous en même temps.
Ce que disent de nombreux sociologues également, c'est qu'aujourd'hui, on le sait, il y a de plus en plus de divorces. Or, à quel âge, en moyenne, on divorce, c'est 40 ans, oui, c'est 45 ans. Et le problème, c'est qu'on se retrouve avec un entourage de gens qui sont mariés, pas forcément divorcés, etc. Et que
pas
Internet,
encore.
Mais c'est une fenêtre qui ouvre, des possibilités pour ces gens de retrouver. Alors,
le problème de société qu'on rencontre, c'est un vrai problème de société, c'est les femmes seules.
Soit
les femmes divorcées, soit les femmes veuves. Et le nombre de femmes seules, alors on a l'impression qu'il y a une plus grande difficulté pour les femmes de trouver un compagnon ou d'avoir une relation que ça n'est pour les hommes. C'est extrêmement impressionnant.
Parce que les mamans solo, elles arrivent avec des enfants.
Il y a plus de double vie.
C'est ça.
Non, les mamans solo, elles arrivent avec des enfants. Et moi, quand il m'a dit 4 enfants, même pas peur, moi j'en ai 3. J'ai dit, d'accord. Ah bah hop, c'est parti. Mais c'est vrai, hein.
Florence Escaravage, fondatrice de Love Intelligence, spécialiste en coaching amoureux. Merci beaucoup, Florence, d'être avec nous dans Estelle Midi.
Bonjour à tous. Merci à vous.
Elle est très jolie.
Robert Sebag vous trouve très jolie. Mon frère Robert, c'est pas une appel.
Non, elle a l'air très intelligente.
Mais en plus. Oui. Bon, enfin, écoutez,
on n'est pas là pour rencontrer. Vous avez une beauté mythique, madame. Vous avez une beauté mythique.
On n'est pas là pour rencontrer, on est là pour débattre.
On l'a fait rougir.
Florence Escaravage, est-ce que tout d'abord, une rencontre sur Internet, ça a la même saveur qu'une rencontre classique? Je m'explique. Quand vous rencontrez quelqu'un de manière classique, on va dire, vous savez pas s'il est marié, divorcé, vous savez rien de lui, vous savez pas s'il va vous dire oui, vous savez pas s'il va vous dire non, vous savez pas s'il est en recherche. Alors que quand vous allez sur un site de rencontre, a priori, vous savez déjà que la personne, elle est en recherche. Est-ce que ça nuit pas un petit peu
au
papillon dans le corps, dans le cœur, on va dire?
Les rencontres via les sites internet, c'est plus difficile. C'est plus difficile puisqu'il y a une logique de consommation, de choix sur étalage, et donc l'enjeu, c'est de recréer de l'émotion, et donc c'est ça en fait aujourd'hui qui est difficile, mais pour tout le monde, que ça soit sur internet ou pas, mais encore plus sur internet, c'est que finalement il faut que ce qu'on va livrer à l'autre, que ça soit en 10 minutes par écrit ou alors en une heure lorsqu'on est en train de prendre un verre avec lui et ou avec elle, eh bien c'est de libérer un peu d'essence de qui l'on est, de ce qui nous anime, de ce qui nous touche, pour que l'on sorte justement des critères, des photos et de ce qu'on a pu raconter sur son profil. Mais aujourd'hui, en fait, il faut bien comprendre tout ce que vous avez dit, c'est très intéressant et parfois juste, mais il y a une telle déshérence affective, une telle déshérence, un tel isolement de la part des femmes comme de la part des hommes, que heureusement, d'une certaine manière, que ces applis ou ces sites de rencontres existent, parce que le plus important, c'est de trouver l'amour et de pouvoir s'y épanouir. Et sans ces sites, pour certaines personnes, c'est impossible de faire des rencontres. Parce que c'est plus difficile qu'avant, on a
les gestes barrières, vous rendez compte, le masque.
Mais c'est vrai, quand tu veux draguer avec un masque.
Non, mais c'est très facile pour les étudiants de se rencontrer. Et même, on fait beaucoup de rencontres dans le cadre de l'entreprise. Il y a une relation sur 7 qui provient de l'entreprise. Mais il y a des personnes qui ne sont pas dans ce cas de figure-là. Il y en a qui sont isolées. Il y en a qui...
Chapelle.
Voilà. Et donc, ça reste, si vous voulez, juste un algorithme intelligent qui est malheureusement pas toujours bien amené parce que, en fait, on n'a pas beaucoup d'espace pour s'exprimer... et les gens, bêtement, ne mettent que leurs photos et n'utilisent pas tous les caractères qui leur sont donnés pour pouvoir se livrer de manière un peu sensible sur qui ils sont, ce qui les anime, ce qui les touche. Mais heureusement, aujourd'hui, que ces applis existent pour qu'on puisse se rencontrer quand on vient de divorcer ou qu'au contraire, ça fait 10 ans qu'on a divorcé et ça fait 10 ans qu'on se casse les dents parce qu'on rencontre que des hommes mariés. Voilà. Vous savez, nous, on a accompagné...
Qui peuvent aussi être sur les applis, hein.
Mais bien, oui,
parce qu'il y a des applis pour personnes mariées.
On peut être sur plusieurs à la fois ou non?
Ah oui. Ah on peut être sur 10 applis. Oui, Florence.
Comme les taxis.
Vous avez complètement raison. Il y a évidemment des affreux jojos qui sont mariés. Et vous savez quoi? Qui préfèrent, au lieu de regarder Netflix le soir, de parler à une femme. Voilà, alors que leur propre femme est peut-être, je sais pas, dans une autre pièce. Et ils vont échanger sans dire évidemment qu'ils sont mariés. Donc, il y a une approche pour ne pas perdre son temps sur les sites de rencontres. Et ça, personne ne sait le faire. Pourquoi? Parce qu'on est tous dans une posture de méfiance. On a peur de Tinder, on a peur de Mythic ou d'Appen ou je ne sais quoi. Voilà. Mais en revanche, quand on sait finalement qu'il n'y a que un peu de saveur de soi, il faut mettre un peu de réalité, vous voyez, un peu de chair finalement dans notre démarche sur les sites pour que l'autre, il se dise « Ah, mais ça, c'est une vraie personne, elle est vraiment là, pour, elle va peut-être répondre à mon message » et essayer d'éviter toute cette volatilité qui rend si désagréable les applis.
Alors Florence, on a beaucoup de témoignages au 32-16, beaucoup de gens qui ont envie de nous raconter leur expérience, leurs aventures sur les applis de rencontre. Et on a Nathalie qui nous appelle du Var. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans Estelle Midi. Nathalie, vous faites quoi dans la vie?
Alors je suis ingénieure.
Et alors Nathalie, est-ce que vous êtes pour ou contre les applications de rencontre? Est-ce que l'amour peut durer quand il démarre sur Internet?
Alors moi, je vais vous expliquer mon histoire. Moi, j'avais pas de problème de timidité, j'avais pas de problème pour draguer, ni me faire draguer. J'ai enchaîné jusqu'à l'âge de 35 ans environ les relations de 3 ans. Mm-hmm. Et je tombais que sur des hommes qui ne s'engageaient pas véritablement avec moi. Donc tous les 3 ans, grosso modo, je me trouvais en échec. Et puis j'ai une amie qui m'a conseillé de changer de technique.
D'accord.
Donc c'était la première fois que je m'inscrivais sur un site de rencontre. C'était l'été 2014.
C'était lequel?
C'était e-learning.
D'accord, je ne connaissais pas.
J'ai rencontré mon mari en septembre 2014. Alors, on est restés amis, ça a duré 3 mois. On a entamé une relation amoureuse en décembre. En juillet 2015, il m'a demandé en mariage. On s'est mariés en décembre et donc dimanche prochain, on fête nos 6 ans de mariage.
Oh bah bravo Nathalie.
Bravo Nathalie.
Voilà, joli témoignage. Et alors attendez Nathalie, qu'est-ce qui vous a plu sur l'application de rencontre? Parce que Emmanuel Dancourt nous dit que la photo, elle s'en foutait, mais j'ai du mal à le croire. C'est-à-dire que évidemment, vous regardez quand même la photo. Si le mec vous plaît pas, vous y allez pas. Vous, c'est la photo, c'est ce qu'il vous a dit. Qu'est-ce qui vous a plu?
Alors, la photo, évidemment, on regarde forcément. Après, ça peut être faussé, c'est-à-dire qu'il peut avoir l'air charmant et en réalité, il peut moins l'être et vice-versa. Donc, il faut quand même se méfier des photos. Moi, ce qui me plaisait, c'était son métier, tout simplement. Je procédais par l'élimination sur le métier.
Mais il faisait quoi comme métier?
Frigoriste.
Et c'est, d'accord. Et vous trouviez ça sexy?
Ça peut jeter un froid, mais bon.
Je trouvais ça sexy, mais j'éliminais des professions qui me parlaient pas et avec lesquelles j'avais aucune affinité. C'est tout bête, mais professeur, médecin, avocat, c'est des gens avec qui je pensais pas pouvoir engager une conversation. Et frigoriste, c'était une profession que je connaissais bien. Voilà.
Eh ben c'est génial, Nathalie. On est super content pour vous. Dans Estelle Midi, les 6 ans de mariage de Nathalie. Tiens, dans 5 jours, bah écoutez, félicitations. On a également Natacha qui nous appelle du Morbihan. Bonjour, Natacha.
Bonjour.
Bonjour Natacha. Et Natacha, bah vous aussi, ça a marché les applications de rencontre?
Oui, ça a très très bien fonctionné pour moi. Bah, j'y croyais plus, hein. Ça faisait déjà 10 ans que j'étais inscrite et j'ai changé de méthode.
C'est-à-dire?
J'ai décidé de garder des distances. Que le problème que j'avais, c'est que je m'emballais dans chaque relation. À chaque fois, avant de rencontrer la personne, je me faisais tout un cinéma dans ma tête.
C'est normal.
Je m'emballais. Voilà. Et une fois que je rencontrais la personne, ben le feu s'éteignait. Et du coup, j'ai décidé, bon, pendant deux mois, on s'est parlé comme ça ponctuellement, mais en étant disponible pour d'autres personnes avec qui on pouvait parler sur le site. Mm-hmm. Et à un moment donné, on a décidé de se rencontrer et c'est là que ça a vraiment démarré.
Mais alors, attendez, Natacha, au départ, vous dites que vous avez été pendant 10 ans sur ce... C'était quoi comme site?
Ah, j'ai fait plein de sites, j'ai fait Mythique, j'ai essayé plein de sites différents. J'ai eu des relations qui ont duré 1 ou 2 ans, mais...
Ah, quand même?
Quelques fois, mais alors très rarement.
Alors, justement, j'allais vous dire, la plupart du temps, vous allez jusqu'au café ou en fait, vous arrêtez à la discussion et vous sentez bien que ça pourra pas le faire?
Voilà, ou alors on commence à se rencontrer, à se fréquenter et puis la personne n'était pas disponible ou... elle n'était pas ce qu'elle prétendait être. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai préféré me faire mon idée moi-même une fois la rencontre et de voir ce que ça a donné. On ne s'est jamais quitté et ça va faire 10 ans le mois prochain. Donc voilà.
Oh, joli, bravo. Voilà, pour l'instant, on a que des... Bah écoutez, c'est magnifique, Natacha. Bah écoutez, bravo à vous et félicitations. Bah merci en tout cas, Florence Escaravage, d'avoir été avec nous pour ce débat sur les applications de rencontres. Florence Escaravage, fondatrice de Love Intelligence, spécialisée en coaching amoureux. C'était extrêmement intéressant. On a eu beaucoup de témoignages également. Rémi, allez-y.
Ah bah je vais t'en lire un. Allez, celui de Polo qui dit « Je suis sur des sites de rencontres. Après quelques messages, on parle de nos situations. Quand je dis que j'ai une Porsche et une piscine, ça accélère tout, donc j'ai arrêté. » Et il y a Vincent qui nous dit « Plus tard, on dira à nos enfants, j'avais l'iPhone 6 quand j'ai rencontré ta mère. »
Oui, c'est assez joliment dit. On a fait un sondage sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Est-ce que l'amour peut durer quand il a démarré sur une application de rencontre et ça donne quoi?
La majorité est sceptique quand même. C'est non à 54%.
Aïe. Mais enfin, on a eu de très beaux exemples de réussite. Dans Estelle Midi, avec de très beaux témoignages. Merci d'ailleurs à tous ceux qui nous ont appelés au 3216.
RMC, les meilleurs moments d'Estelle Midi.